Conversation avec une IA, pourquoi la prière est toujours supérieure à un prompt informatique? L'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça évoque chez vous? Chez moi, ça me fait penser à des films comme iRobot ou comme Matrix, ou bien un peu plus vieux comme ça, ce film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans chacun de ces films, iRobot, Matrix, 2001, l'Odyssée de l'espace, l'être humain perd le contrôle sur l'humanité et se fait réduire à l'état d'objet, d'enfant, par une intelligence artificielle toute puissante qui pense mieux faire, si tant est qu'elle pense. L'intelligence artificielle, l'IA, ça peut nous faire peur, pour plusieurs raisons. D'une part, en Occident, donc chez nous aussi, on vit un peu dans le culte de la technicité. Notre société vit dans la croyance que le développement technologique est bon et profitable. On imagine que le développement technologique ultime, la technologie ultime, c'est l'intelligence artificielle, comme celle qu'on voit dans ces films, justement. L'IA devient une machine qui réfléchit mieux que les humains, une machine qui réfléchit à la place des humains, et dont on pourrait potentiellement perdre le contrôle, pourrait nous détruire. Alors, pour cette intelligence artificielle-là, j'aimerais vous rassurer, on en est encore très 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 loin. L'intelligence artificielle dont on parle maintenant, ChatGPT et compagnie, techniquement, c'est pas une intelligence artificielle. Le nom est surfait par rapport à ces choses dans ces films. Mais l'IA peut nous faire peur pour une autre raison. Elle fait peur parce qu'elle amène du changement. Le 30 novembre 2022, le monde entier a eu accès au chatbot de ChatGPT de l'entreprise OpenAI. Et le monde entier a pu prendre conscience que l'informatique avait fait des progrès. Et déjà, le monde entier est en train de changer à toute vitesse. Tous les secteurs de l'économie sont impactés par cette nouvelle intelligence artificielle. La plupart des entreprises implémentent déjà des logiciels en lien avec ça, pour améliorer leur fonctionnement, leurs produits, leur marketing, ou simplement réduire leurs coûts. Donc le monde est en train de changer, le monde change à toute vitesse. En fait, ce n'est pas la première fois. Il l'a déjà fait lors de l'invention de l'imprimerie, il l'a fait encore une fois lors de l'invention de la machine à vapeur, et il l'a fait encore une fois quand l'informatique est arrivée. Et à chaque fois, ça a bien sûr eu un gros impact sur le marché du travail. Comme aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des gens qui vont perdre leur travail à cause de l'IA. Pour certains d'entre eux, c'est vraiment dramatique. Et comme chaque fois, il y a d'autres gens qui vont trouver du travail grâce à l'IA. Le monde change et ça fait peur parce qu'on peut légitimement craindre d'être perdant là-dedans. Craindre de se faire larguer, craindre de rester derrière. Déjà aujourd'hui, on est obligé d'adhérer à un certain nombre d'évolutions technologiques, d'évolutions informatiques. Si vous voulez vivre aujourd'hui sans smartphone, sans e-banking, sans les nouvelles factures QR, là, qu'il faut scanner soi-même, sans Internet, ben, c'est déjà compliqué et ça va devenir de plus en plus compliqué. Nous vivons dans un contexte qui nous force à nous adapter, sous peine de devenir des exclus de la société. Ce n'est pas une révolution de l'année passée, en fait, c'est plutôt une étape dans un processus qui a commencé il y a peut-être plus d'une vingtaine d'années, quand l'informatique s'est invitée dans tous les ménages. Et c'est un processus qui va encore durer quelques dizaines d'années, probablement. Donc je vais élargir un peu le focus de ce matin. J'aimerais qu'on regarde un peu la Bible maintenant. Alors la Bible, j'ai regardé l'intelligence artificielle dans la Bible, il n'y en a pas. Et d'une certaine manière, les choses qui peuvent nous faire peur avec l'intelligence artificielle ont déjà existé. Et dans l'Ancien Testament, on trouve l'histoire de Daniel. Et j'aimerais vous lire le premier chapitre de l'histoire de Daniel. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu à lui. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable des eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité, de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Hanania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel : « Je redoute mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et ce que vous devez boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les autres gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Hanania, Michaël et Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la connaissance et la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Daniel, c'est l'histoire d'un jeune noble préformé qu'un roi étranger veut transformer. Daniel est OK de se conformer, mais sans se laisser déformer. Et ainsi, Dieu va pouvoir le former. Voilà un peu un résumé. Et l'histoire commence ainsi. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, envahit le pays du peuple d'Israël et il emporte avec lui de quoi enrichir son propre royaume et appauvrir le royaume des vaincus. Ça comprend des objets liés à Dieu et aussi des jeunes gens qui auraient pu devenir des gens importants dans le royaume d'Israël. L'idée est de transformer ces gens pour en faire des Babyloniens, au service du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ce sont des garçons nobles ou de sang royal qui sont emmenés, et en particulier ceux qui sont en bonne santé, beaux, perspicaces, sages, cultivés, intelligents, capables de servir. Bref, ceux qui auraient fait les super dirigeants du peuple d'Israël. Et que fait Nebuchadnezzar ? Il entreprend de les transformer complètement. Et les transformer complètement, on voit ça à 3 niveaux. Il veut transformer leurs connaissances. Ils doivent apprendre la littérature de Babylone et la langue de Babylone. Il veut les transformer au niveau des habitudes et des fonctionnements. Ils doivent se comporter comme des nobles babyloniens, manger de la même chose, de la même façon. Et au niveau de l'identité, chacun reçoit un nom babylonien. Alors, Nebuchadnezzar n'est pas le seul roi de l'histoire, hein, à avoir fait quelque chose comme ça. Les Romains ont fait ça, les Arabes ont fait ça, les Chinois, les Anglais, les Français ont fait ça aussi. Et beaucoup d'autres rois qui ont envahi d'autres territoires ont fait ça. Prendre les jeunes nobles du pays vaincu et les transformer. Donc Daniel fait partie de ces jeunes gens qui sont forcés de s'adapter à un nouveau monde. Et aujourd'hui, je le disais en introduction, l'évolution technologique, elle nous force aussi à nous adapter à un nouveau monde. Au niveau des connaissances, Google, Wikipédia, ChatGPT et compagnie, elles chamboulent notre manière de connaître les choses et notre manière d'utiliser la connaissance. Puisque ces choses-là sont en permanence dans notre poche, dans un smartphone, ça change aussi notre manière d'être en relation avec les autres, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 30 ans en arrière, on pouvait avoir, quand on était au café, un débat de connaissances. Moi, je crois que c'est comme ça. Non, moi, je crois que c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir un débat de connaissances. Parce que si on n'est pas d'accord, on sort le Natel, puis on regarde dessus, puis on a l'information. Ça change nos manières de fonctionner. Pour ce qui est des habitudes et des fonctionnements, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous prenez les transports publics, le nombre de gens qui lisent un livre ou qui discutent avec leurs voisins. Peut-être vous avez plus remarqué ceux qui sont sur le Natel. Ça change nos habitudes et nos fonctionnements. On a perdu l'habitude de parler à des inconnus, même pour demander notre chemin. Au niveau de l'identité, l'informatique nous bouleverse également, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ces réseaux sociaux nous mettent la pression pour qu'on montre la meilleure image de nous-mêmes. Une image de soi qui n'est pas conforme à la réalité. Et ça a un impact sur notre identité aussi. Un impact grand. Et les jeunes sont en première ligne dans la construction de leur identité. C'est là qu'ils sont le plus impactés. Notre monde change et nous sommes bousculés. Et là, au milieu, cette histoire de Daniel, elle vient nous montrer une piste. Au milieu d'un monde qui tente violemment de nous transformer, Daniel vit la grâce de Dieu. Il surfe sur le changement qui s'impose à lui, tout en restant inflexiblement fidèle à Dieu, en continuant à faire confiance à Dieu. Et Dieu reste fidèle à Daniel aussi, car Dieu est fidèle. Et si on regarde la suite de l'histoire de Daniel dans la Bible, on va voir qu'il va avoir une carrière politique complètement incroyable à Babylone. Et qu'en même temps, il sera un des principaux prophètes de la Bible. Notre monde change, mais n'ayons pas peur. Oui, ça va nous impacter, ça nous impacte déjà et ça va continuer à nous impacter, mais Dieu est fidèle, il est toujours à nos côtés, il sera toujours à nos côtés. Je suis Antonin de 2024, dans 10 ans, il y aura un Antonin de 2034, qui sera peut-être un peu différent, mais la foi restera la même, ou en plus profond, j'espère. Dieu restera à mes côtés et pour vous aussi, Dieu restera à vos côtés. Dieu restera fidèle. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur de cette informatique. Je propose de regarder de plus près la stratégie de Daniel. Que fait Daniel face à ce système qui cherche à le transformer? Ben, je vois un certain nombre d'éléments que je vous propose de parcourir. La chose principale, peut-être, Dieu reste ancré en Dieu. Il continue à faire de sa relation à Dieu sa priorité. Il fait confiance à Dieu. C'est le point central, le point de départ et le point d'arrivée. Du coup, on va revenir dessus un peu plus tard. Une première chose que je vois, c'est que Daniel se conforme largement au changement. Il suit le mouvement général. Il accepte d'étudier la littérature babylonienne. Il accepte d'apprendre la langue babylonienne. Et ça lui sera utile pour sa carrière. Mais la suite de l'histoire montre aussi qu'il continue de prier 3 fois par jour, tous les jours, Daniel 6. Et au Daniel 9, on apprend aussi que Daniel continue d'étudier la Bible. Donc apprendre des choses profanes, comme les choses de Babylone, ne l'empêche pas de continuer à grandir dans la foi. On peut utiliser Google, Wikipédia et ChatGPT, et en même temps continuer à prier, à étudier la Bible. Même utiliser ces outils pour mieux comprendre la Bible. J'ai un logiciel biblique pour préparer mes messages qui me fait gagner un temps fou et qui me permet d'entrer dans des aspects du texte que j'aurais pas réussi par moi-même. Mais ça remplace pas ma lecture priante de la Bible. Le matin, je prie avec la Bible que j'avais reçue à la confirmation, qui est une vieille Bible, pleine de couleurs, pleine de trucs soulignés. Comme pour les connaissances, Daniel accepte aussi d'être affublé d'un nouveau nom babylonien. Daniel est appelé Belshazzar. Belshazzar. Mais ce nom ne devient jamais la nouvelle identité de Daniel. Tout au long du livre de Daniel, Daniel est toujours appelé Daniel. Il y a seulement le roi Nebuchadnezzar qui appelle Daniel Belshazzar, mais le narrateur corrige toujours après pour dire « Oui, Belshazzar, c'est Daniel. » Daniel reste toujours Daniel. Et d'une certaine manière, il accepte d'avoir une identité virtuelle pour son utilisation du système babylonien, si j'ose dire, son travail. Il a un pseudonyme d'influenceur babylonien, si on veut bien. Son pseudonyme, c'est Belshazzar, mais son identité réelle, elle ne change pas. Ne laissons pas les nouvelles technologies changer notre identité. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons de la valeur. On a chanté ça tout à l'heure, hein, c'était le deuxième chant, je crois, le troisième. Je suis enfant de Dieu. J'ai de la valeur, Dieu nous a appelés par notre nom, chacun d'entre nous. Facebook, Insta, WhatsApp et les autres, c'est pas le reflet de qui vous êtes. Et c'est pas non plus le reflet de qui sont les autres. Donc, je nous encourage à consolider notre identité en Dieu, à découvrir avec Dieu nos joies, nos peines, nos forces, nos faiblesses. Dieu y regarde au cœur. Et je nous encourage aussi à découvrir les autres tels qu'ils sont pour de vrai, et pas à travers ce que nos écrans nous racontent à leur sujet. Daniel fait un travail de discernement pour identifier ce qui pourrait le détourner de Dieu. Pour lui, c'est la nourriture, ou peut-être plus précisément la façon de consommer la nourriture. Si on regarde bien ce texte, on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'obéir à la loi de l'Ancien Testament, parce que Daniel s'impose des restrictions plus sévères que celles de la loi. Il s'agit plutôt de marquer son indépendance face au roi. Je ne me laisse pas transformer complètement en babylonien. Et c'est pour ça que le chef des eunuques, il a la trouille, il a peur pour sa vie de faire ça. Donc Daniel risque sa vie en désobéissant au roi. D'ailleurs, pendant toute sa vie, chaque fois que le système babylonien veut empêcher Daniel de soigner sa relation à Dieu, Daniel fait le choix de continuer à servir son Dieu, même s'il risque sa vie. Et chaque fois, Dieu est fidèle et Dieu répond. Donc Daniel fait un travail de discernement. Et le texte d'aujourd'hui, il identifie la manière de prendre leur pas comme quelque chose qui risquerait de l'éloigner de Dieu. Je crois qu'il y a certains péchés qui sont un peu personnalisés, si j'ose dire. Par exemple, moi, Antonin, je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone à lire le journal. Alors, lire le journal, c'est pas mauvais en soi, mais pour moi, ça devient un peu comme une dépendance. Quand je ne sais pas quoi faire, je sors mon téléphone et je lis le journal. Et ça me prend du temps que je passe pas avec Dieu. Ça m'éloigne de Dieu. Alors, quand j'y pense, j'essaie de me forcer à poser le natel. De la même manière, il y a un peu plus de 12 ans, j'ai arrêté de faire les jeux vidéo parce que j'ai remarqué que les jeux vidéo me volaient mon temps. C'est pas que les jeux vidéo sont forcément mal en soi, mais pour moi, c'était clairement quelque chose qui me faisait pas du bien. Et vous, est-ce qu'il y a quelque chose dans la technologie qui vous éloigne de Dieu? Est-ce que vous seriez d'accord de réduire ou d'abandonner certains comportements qui vous éloignent de Dieu? Ou de trouver une stratégie pour que ces choses-là ne vous éloignent? Je reviens à Daniel. Quels sont les autres éléments de la stratégie de Daniel? Daniel s'entoure d'une communauté pour partager sa foi. Une communauté qui l'aide. Ils sont quatre jeunes gens et ils se tiennent les coudes. Ils prient ensemble. Au chapitre 2 du livre de Daniel, on voit par exemple comment Daniel va demander à ses compagnons de prier pour lui avant qu'il va prendre un risque pour Dieu. Quatre personnes, c'est un peu la taille minimale d'un groupe de maisons. Dans un groupe de maison, on peut partager nos joies, nos peines, on peut prier ensemble, on peut s'encourager mutuellement. Est-ce que vous avez déjà pensé à rejoindre un petit groupe de maison? C'est une bonne idée, je vous encourage. Que fait Daniel? Daniel tire profit des opportunités du nouveau système. Je l'ai dit, il va devenir un des plus importants personnages de l'Empire babylonien. Grâce à sa position, il va pouvoir sauver un tas de monde, juifs et non-juifs. Grâce à sa position, il a aussi la possibilité de garder chez lui des précieux livres de la Bible. À cette époque-là, ce n'était pas rien de posséder un livre biblique. Et grâce à sa position, il a aussi la possibilité d'avoir chez lui une pièce de sa maison qui est dédiée à la prière. Les technologies nous offrent des opportunités pour faire carrière, pour aider notre prochain, pour favoriser notre vie spirituelle. Il y a par exemple sur le smartphone des applications pour la prière, pour lire la Bible, pour méditer. Ce système technologique dans lequel on est forcé d'entrer peut aussi nous offrir des opportunités pour soutenir notre foi, pour renforcer nos actions chrétiennes. J'ai pas mal essayé de tirer profit de ChatGPT ces dernières années pour mon ministère. Alors dans certains domaines, ça n'a pas du tout marché, ça m'a plutôt induit en erreur. Dans d'autres, ça m'a fait oublier d'écouter Dieu, ce qui n'était pas très malin non plus. Et ça a débouché sur un output stérile. Et parfois, ça m'a juste fait perdre du temps. Et puis finalement, j'ai trouvé certaines utilisations de ChatGPT qui me sont utiles. À nous de discerner avec l'aide du Saint-Esprit ce qui est bénéfique pour nous, ce qui est bénéfique, ce qui ne l'est pas. Une application, ça a l'avantage, on peut l'installer, on peut l'essayer, on peut la désinstaller aussi si ça ne va pas. Que fait d'autre Daniel ? Avec l'aide du Saint-Esprit, il cherche la sagesse de Dieu. Au verset 17 du texte que je viens de lire, on lit que Dieu accorde à Daniel la connaissance et la sagesse, ce qui est bien, ce qui va être utile à Daniel, mais surtout il lui donne un don spirituel. Daniel a la capacité d'interpréter les rêves et les signes. Et à chaque moment critique de la vie de Daniel, c'est toujours, à chaque fois, ce don spirituel qui fait toute la différence. C'est pas ses connaissances du babylonien, c'est pas son intelligence, c'est sa connexion à Dieu qui fait la différence. Les outils technologiques, y compris l'IA, elles peuvent être utiles pour notre quotidien, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est Dieu dans nos vies. Attention à garder le Seigneur au centre de nos vies, au centre de nos priorités, au centre de notre agenda. Appuyons-nous sur lui, il est vraiment un rocher sur lequel on peut s'appuyer. En gardant le Seigneur au centre, Daniel fait confiance à Dieu, même et surtout lorsque sa vie est en danger, et même lorsque abandonner Dieu pour se conformer au système, ça lui sauverait la vie. Non, Daniel choisit de rester avec Dieu. Il choisit de faire confiance à Dieu. Et Dieu intervient à la mesure de la confiance de Daniel. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé dans les évangiles. Souvent, quand Jésus guérit quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Va, qu'il soit fait selon ta foi ». Cultivons notre foi. Comme Daniel, attendons-nous à Dieu, faisons confiance à Dieu, à ses promesses. Finalement, dernière chose que je remarque dans ce texte, peut-être la plus importante, Daniel passe du temps avec Dieu. Au chapitre 6, je l'évoquais avant, on apprend que Daniel a l'habitude de se retirer 3 fois par jour pour prendre un temps de prière seul avec Dieu. Et dans ses temps d'intimité avec le Seigneur, Daniel se laisse transformer. C'est aussi parfois dans ces temps où il est seul avec le Seigneur, que le Seigneur vient lui parler, que le Seigneur lui envoie un ange, que le Seigneur lui révèle quelque chose. Dans ces moments que son don spirituel est mis en pratique. Nous aussi, prenons du temps dans la prière. Pourquoi pas faire comme Daniel ou comme Séverine. Séverine, c'est mon épouse. Dans son agenda, elle marque et elle réserve des temps pour prier. Dans les médias, on nous parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'un monde hyper connecté. Un monde hyper connecté, je crois que c'est archi faux. Nos objets sont peut-être hyper connectés, mais bien souvent nos cœurs, eux, ils sont hyper déconnectés. Alors, connectons-nous à Dieu. Connectons-nous à Dieu, passons le plus de temps possible sur le réseau de Dieu. Et même que Daniel est un expert en système babylonien, même que Daniel utilise à fond le système babylonien, ce qui compte, ce qui fait la différence, ce qui sauve Daniel, c'est sa connexion à Dieu. Ça passe ni par le système babylonien, ni par un système informatique. La prière est toujours supérieure à un compte informatique. Seigneur Jésus, je veux te louer pour qui tu es, te remercier d'être un Dieu qui s'intéresse à nous, qui nous aime, qui nous appelle par notre nom. Seigneur Dieu, tu vois ce monde qui change à toute vitesse. Tu vois combien ça peut nous défier, nous bousculer. Et Seigneur, on te prie d'être avec nous dans ce changement. D'être avec nous quand on doit s'adapter à une nouvelle machine qu'on ne comprend pas. On te prie d'être avec nous quand on oublie de prendre du temps avec toi. Et on te prie d'être avec nous, Seigneur, à chaque instant. Viens nous aider à nous connecter à toi, à ne pas oublier de faire de toi notre priorité, à ne pas oublier de prendre du temps avec toi comme on prend du temps avec un ami. Merci parce qu'à la croix, tu nous as délivrés du péché, pour qu'on puisse vraiment s'approcher de toi et vivre dans ta présence. Merci Seigneur.